Alors, je voulais remercier Michel, pasteur Michel, d'avoir lancé la série la semaine dernière avec la louange. Un excellent exposé biblique sur la louange, un bon message, je vous encourage à aller l'écouter. Notre série « Retrouver le rythme » vise à s'entraider, à aider l'Église à retrouver les rythmes de la vie de l'Église, de la vie communautaire. La crise sanitaire a bouleversé nos vies à tous, a bouleversé tous les rythmes de nos vies, nos relations avec nos familles proches, nos familles éloignées. Combien de fois on se voit par année? Est-ce qu'on a encore des fêtes de famille? Est-ce qu'on peut fêter des fêtes? Et ça, ça a un impact aussi sur la vie de l'Église. La vie d'une Église est une vie communautaire qui a ses rythmes de vie. Et les deux aspects sont essentiels à ton épanouissement personnel et à l'épanouissement spirituel de l'Église aussi. C'est-à-dire cette idée qu'il y a une communauté, c'est une vie communautaire, qui a ses rythmes de vie. Les deux sont essentiels si tu veux t'épanouir spirituellement, si l'Église veut s'épanouir spirituellement. Et donc, ce qu'on fait à travers cette série-là, c'est qu'on voit des rythmes essentiels de l'espoir. C'est probablement des rythmes qui ressemblent à la majorité des églises, mais on vous les présente à travers la saveur de l'espoir, d'accord? Et si ça ne fait pas partie de ta vie, il manque un élément essentiel. À ce que tu puisses grandir dans le Seigneur. Maintenant, cette série-là vise aussi à te présenter l'Église de l'espoir. Avec la crise sanitaire, il y a plein de gens qui ont remis en question où ils étaient, dans quelle assemblée. Puis c'est correct, à quelque part, de chercher la face de Dieu. On respecte ça. En parler avec ton pasteur, regarder si Dieu t'appelle ailleurs. Ça peut être tout à fait à propos de le faire. Et donc, peut-être que c'est la première fois que tu viens ici ou tu viens depuis quelques semaines, tu dis, j'aime le message de la parole, mais je voudrais connaître plus l'Église. C'est une belle opportunité pour le faire. Tu vas pouvoir découvrir davantage les rythmes spirituels de l'Église de l'Espoir. On va ensemble dans un mot de prière. On va écouter un très, très beau passage des Écritures que je chéris spécialement, puis on va plonger dans la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence ce matin, afin que tu viennes parler à nos cœurs, que tu viennes éveiller notre esprit, par la puissance de ta parole, mais par la puissance de ton esprit aussi, Seigneur. Que cette parole prenne vie en nous, Seigneur. Que ce ne soit pas simplement du blabla dimanche après dimanche ou une théorie intéressante qui pourrait peut-être mener quelque part, mais au contraire, que ce soit une puissance de transformation en nous, Seigneur. Un peu comme on va entendre à travers les témoignages de baptême, la puissance de l'Évangile, Seigneur. Cette puissance de l'Évangile, nous avons besoin qu'elle opère en nous à tous les jours de notre vie, jusqu'à ton retour, Seigneur. À tous les jours de la vie de cette Église, de cette communauté, on a besoin, Seigneur, que le message de l'Évangile soit là pour nous animer, pour nous réveiller, pour nous émerveiller à nouveau, Seigneur. Alors, je te prie de venir nous parler ce matin puissamment, Seigneur. Et si quelques personnes est en visite avec nous ce matin ou écoute ça sur le web et ne te connaît pas, Seigneur, viens la transformer, qu'elle soit bouleversée par la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Colossiens, au chapitre 3, les versets 12 à 17, dans la nouvelle édition de Genève. Colossiens 3, 12 à 17. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père.
Ça, c'est un des rythmes pour moi qui me fait du bien. Entendre Danny me lire la parole de Dieu. Retrouver sa voix pour me lire la parole de Dieu, ça me fait du bien. Une expression que j'aime beaucoup, beaucoup dans le Nouveau Testament parce que je trouve que c'est puissant. Pour moi, ça évoque beaucoup l'œuvre que Christ fait en nous. C'est dans Galates 4 au verset 19. Et vous allez voir ensuite le lien avec le passage de ce matin. « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Je trouve ça tellement beau comme expression. « Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Le projet de Dieu à travers l'Évangile, quand il vient nous sauver, ce n'est pas simplement nous sauver d'une damnation éternelle, ce qui serait déjà extraordinaire, nous sauver d'un jugement à venir, ce qui est déjà extraordinaire, mais c'est infiniment plus glorieux que ça. Dieu veut former Christ en nous. Il veut nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et ça, ça m'inspire. Lorsque je regarde à moi-même, il y a des choses que je trouve intéressantes. Je trouve que Dieu m'a donné des dons, des talents, j'ai des capacités. Mais il y a tant d'aspects de ma personne que j'aimerais voir être transformés. Et si Dieu me dit « oui, je vais les transformer », je vais les transformer à l'image de Christ. Il n'y a pas de plus belle promesse que Dieu pouvait me donner que celle de me dire qu'il va former le caractère, la personne de Jésus-Christ en moi. Amen! C'est vraiment inspirant. Qui ne voudrait pas ressembler à Jésus-Christ lorsqu'on lit les Évangiles? Et voici comment c'est dit. Je vois vraiment ça un parallèle dans Colossiens 3, versets 9 et 10. « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Cet homme nouveau, c'est toi, additionné de Christ. C'est toi avec Christ, son caractère, sa pensée, ses désirs, ses sentiments formés en toi par la puissance de l'Évangile et par l'œuvre de l'Esprit-Saint. » C'est ça le projet de Dieu avec l'Évangile. Tu te dis, pourquoi je deviendrais chrétien? Bien, parce que tu peux être toi plus Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus glorieux que ça. On va enlever tout ce qui n'est pas bon en toi, puis on va remplacer ça par le caractère de Christ. C'est pour ça que tu veux devenir chrétien. Parce que tu lis les Évangiles et tu dis, aïe, aïe, s'il y a quelqu'un qui était beau sur la terre parmi les hommes, c'était Jésus-Christ. À l'Église ici, notre vision, c'est celle-ci. On veut être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. On veut être émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ tous les jours, constamment. Ne pas perdre cette fascination-là devant ce que Christ a fait. Et ce que Christ a fait à la croix, mais tout ce que ça implique pour la suite de l'histoire, ce qu'il a fait à la croix ouvre la possibilité que Christ soit formé en toi, en moi. Et c'est pour ça, comme Église, c'est ça notre vision. On veut être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ, parce que sur la terre, il n'y a rien de plus beau, de plus inspirant, de plus merveilleux à contempler que l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Et c'est ça notre vision. Alors, voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Ce matin, on va voir ensemble que Dieu vient former Christ en chacun de nous, et pour cela, la parole de Christ doit être riche au milieu de nous. Ce matin, on parle du rythme de la parole, mais pour ce beau projet-là de former Christ en toi et moi, il faut que la parole de Christ soit riche au milieu de nous, en chacun de nous et au milieu de nous. La parole de Christ, regardez le verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Et je continue en disant, « Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Quand tu deviens chrétien, c'est ça que ça va symboliser tout à l'heure, alors que Jean-François et Cathy vont passer par les eaux du baptême, ça va manifester, ça va exprimer leur mort en Jésus-Christ, où ils renoncent à eux-mêmes, et leur résurrection avec Christ. Cette vie nouvelle-là qui commence en eux. La parole de Christ. Regardez maintenant le verset 16. « Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. » C'est quoi la parole de Christ? Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Vous savez qu'il y a des Bibles qui mettent toutes les citations de Jésus en rouge? Vous avez déjà vu ça? Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Dans le fond, c'est notre prochaine étape dans pour finir la salle. Ici, on va toutes mettre les paroles de Jésus en rouge sur les murs. Juste les citations de Jésus. Est-ce que c'est ça la parole de Christ? De quoi il est question? C'est beaucoup plus large que ça. Ça serait extraordinairement réducteur de comprendre la Bible comme si les citations intégrales de Jésus dans les évangiles, ça c'est la parole de Christ. Non, la parole de Christ, c'est premièrement le message de Jésus-Christ dans son ensemble. La bonne nouvelle, hein, l'évangile ça veut dire bonne nouvelle, la bonne nouvelle de qui est la personne de Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire. Puis une fois que je comprends ce que Jésus est venu faire sur la terre, qui il est en réalité, je retourne vers toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, et je ne lis plus jamais la Bible de la même manière. Amen? Plus jamais je vais lire les Saintes Écritures de la même manière, une fois que j'ai compris qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Ainsi, Paul dit que la parole de Christ habite richement en vous. Il est en train de dire que Jésus-Christ, sa personne, son œuvre et toute la lumière qu'il amène sur la parole de Dieu doit habiter au milieu de nous, dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre vision du monde. L'essentiel du message de l'Évangile de Jésus-Christ, dans toute sa richesse, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle que le Père n'a pas abandonné les hommes. On entend actuellement que la terre est abandonnée. Vous avez juste à ouvrir les nouvelles, puis vous entendez que la terre est abandonnée. C'est la fin des temps. Il y a des prophètes qui annoncent la fin des temps à tous les canaux, à toutes les chaînes. La fin des temps arrive, la fin des temps arrive. On a des prophètes, des doomsday prophets qui sont là, qui nous disent, c'est la fin des temps. Dieu n'a pas abandonné la terre. Oui, Jésus va revenir. Dieu n'a pas abandonné la terre. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu n'a pas abandonné la terre. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle que Dieu n'a pas abandonné les hommes. Il n'a pas abandonné les êtres humains. Contrairement à ce qu'ils nous disent les doomsday prophets. Cette bonne nouvelle, c'est que tous les hommes sont malades. C'est une bonne nouvelle, vous allez voir. D'une maladie que nous ne pouvons guérir nous-mêmes, celle du péché. Nous sommes tous pécheurs. Bien, c'est une bonne nouvelle. Il n'y en a pas qui sont meilleurs que les autres. On est tous pécheurs. En même temps, c'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais ça ouvre une possibilité. Quelle que soit ta croyance, ta religion, ta philosophie de vie, Jésus-Christ nous a révélé que nous sommes tous brisés, pécheurs, corrompus dans notre nature profonde. Nous sommes tous disposés au mal. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle parce que ça nous oblige à ouvrir les yeux. Puis ne pas penser qu'il y a un salut parmi les hommes. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. C'est ça que disent les Écritures, hein? Fait que je ne sais pas si tu as des gens sur la terre où tu disais ça. Là. C'est la fin des temps, mais là, il y a des hommes ici là, qui vont nous sauver. Eux autres, ils m'inspirent, c'est notre avenir. Ils vont sauver l'humanité. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Parce que nous sommes tous disposés au mal. Nous sommes tous atteints de cette maladie par nous-mêmes absolument incurable qui est celle du péché. Tous des êtres disposés au mal. Mais cette bonne nouvelle, c'est aussi que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que celui-ci vienne nous guérir. Il vient nous guérir du péché par sa grâce. C'est le langage que Dieu utilise dans Ésaïe. Il vient nous guérir en nous couvrant de sa grâce, en venant nous faire grâce par sa mort sur la croix. Son sacrifice rend possible ta guérison, ton pardon, que la grâce de Dieu te soit appliquée. Et la bonne nouvelle, c'est aussi que ceux à qui il a donné de croire et de recevoir par le fait même cette grâce, il nous a accordé aussi le bonheur de faire partie d'une communauté de grâce. La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que l'Église est une communauté de grâce. Puis Paul est en train de dire ici dans Colossiens, ce message-là de Jésus-Christ, cette parole de Christ, doit habiter richement en vous. Elle doit vous habiter entièrement. Elle doit être présente au milieu de vous dans votre communauté, constamment. Nous sommes la communauté des graciés. Et cette bonne nouvelle de la grâce doit toujours habiter richement au milieu de l'Église. Elle doit dicter chacune de nos attitudes, nos comportements, notre manière de se parler les uns aux autres, nos manières d'interagir. On va voir ça ensemble. J'aime cette citation de Richard Medick. Je vous la lis en anglais puis en français. « The word of Christ was the focus of the congregation. » La parole de Christ était le point focal de la congrégation. Paul est en train de s'adresser dans Colossiens à une église, il ne s'adresse pas à des individus, et il dit à cette église-là, le message de Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ, doit habiter richement en vous. Elle doit être partout en vous. C'est votre point focal. C'est pour ça qu'on désire être une église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. On aurait pu dire, ça aurait été biblique de dire qu'on veut être une église qui est émerveillée par la Bible. Mais le point focal de la Bible, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. C'est l'Évangile de Jésus-Christ. C'est la clé pour connaître Dieu, pour se connaître nous-mêmes, pour grandir dans la grâce. C'est la clé pour comprendre toutes les Écritures. Et donc, on veut être une église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Richard Melick dit encore, « La communauté devait toujours garder à l'esprit la raison de son existence en se concentrant constamment sur le message de l'Évangile et ses implications pour la congrégation. » On devrait toujours être en train de se demander qu'est-ce que l'Évangile implique dans tel ministère, dans nos rapports ensemble, quand on a un conflit ensemble. On a un conflit. Toi puis moi, on a un accrochage, il faut qu'on se parle, il faut qu'on aille prendre un café. Ça ne fonctionne juste plus, on n'arrive plus à se regarder avec le même regard gracieux. Mais en s'assoyant ensemble, on devrait se poser la question, avant de commencer ton plaidoyer, avant de commencer à déposer ta plainte, avant de commencer à dire « tu m'as blessé, tu m'as offensé », la première chose qu'on devrait faire ensemble, c'est se rappeler de l'Évangile, de Jésus-Christ. Puis après, je commencerai à écouter ta complainte. Puis je la regarderai à travers l'Évangile de Christ. L'Évangile de Jésus-Christ doit être constamment au centre de cette congrégation. Toute la Bible est la parole de Christ. Lorsque vous lisez dans Colossiens 3 que la parole de Christ habite richement en vous, on doit comprendre toutes les saintes Écritures. C'est Jésus lui-même qui a montré à ses disciples après sa résurrection comment la loi, qui sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, et les prophètes, et les psaumes. Donc j'ai tout l'Ancien Testament, parlait de lui. Jésus est la clé pour comprendre toutes les Écritures. Et donc le message de Christ, c'est lire toute la Bible à la lumière de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. À l'Église de l'Espoir, on a un plan de lecture à chaque année où on cherche à lire toutes les Écritures. Il y en a qui le font un an, il y en a qui le font 2 ans, il y en a qui mettent 10 ans à le faire. Mais on cherche à lire les Écritures et à lire toutes les Écritures. On ne va pas lire juste les citations de Jésus en rouge. On lit toutes les Écritures. Parce qu'une fois que je connais Jésus-Christ, sa personne, son œuvre, qu'est-ce qu'il est venu faire, je vais lire les Écritures en y découvrant le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, je l'ai dit, c'est quoi? C'est que Dieu a créé les hommes. Les hommes sont tous pécheurs. Je suis dans la Genèse. Puis les hommes ne pourront pas se racheter. Dieu peut leur donner la plus belle des lois. Ils n'arriveront pas à se racheter d'eux-mêmes. C'est l'histoire de tout l'Ancien Testament. C'est l'histoire d'Israël. Mais je suis en train de m'en aller vers l'Évangile à plein, à fond. C'est une histoire de grâce, l'histoire d'Israël. C'est un Dieu qui fait grâce constamment, qui revient à la grâce, à la grâce, à la grâce. Et si Dieu n'avait agi qu'avec justice envers Israël, il les aurait pulvérisés au premier jour où il les a aimés. Mais non, c'est une histoire de grâce et de grâce et de grâce. Puis tranquillement, à travers les prophètes, on voit un jour où cette grâce va venir transformer le cœur humain. Il est annoncé la venue d'un sauveur, d'un messie, d'un Christ. C'est ça que ça veut dire, Christ. Ça veut dire un messie, un sauveur. Le message de Christ, c'est le message de toute la Bible, voyez-vous. Puis j'arrive dans le Nouveau Testament, puis tout devient limpide. Tout devient clair. Je découvre la personne de Jésus. Je retourne lire l'Ancien Testament avec un regard complètement nouveau. Je ne m'en vais pas vers la loi pour me dire, « OK, il faut enseigner des lois dans une église. On va enseigner des lois, les gens vont devenir saints. » Non, la loi va te montrer c'est quoi la sainteté et que tu n'es pas capable d'y arriver. Elle va te convaincre de revenir à l'Évangile. Une fois saisi par l'Évangile, tu vas dire, « Seigneur, par ta grâce, viens former Christ en moi. Viens former Christ en moi. Alors je marcherai dans tes voies, Seigneur, véritablement. » Donc, lorsqu'on pense au message de Christ, à la parole de Christ, on doit penser à toute la Bible. Mais toute la Bible lue et comprise à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'on veut être émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ. Parce qu'on veut apprendre à lire toutes les Saintes Écritures à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, Paul dit que la parole de Christ habite richement en vous. Qu'est-ce qu'il veut dire par « qu'elle habite » C'est vraiment intéressant, hein? Que la parole de Christ habite richement en vous. dans toute sa richesse, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Qu'elle habite richement, ça veut dire qu'elle habite abondamment. Qu'elle soit présente constamment à votre esprit. Qu'elle soit présente constamment dans votre manière de voir les choses. Lorsque vous vous rencontrez, qu'elle soit là constamment. Qu'elle en vienne à dicter notre manière d'agir les uns avec les autres. Notre manière de se former, de se réformer, de se transformer. Qu'elle soit constamment présente. Et encore une fois, ce n'est pas simplement dit que la Bible habite richement en vous. Non, que le message, que la parole de Christ habite richement en vous. Cette parole, cette sainte écriture qui est comprise à travers l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Tu peux être complètement habité de la Bible sans connaître Jésus-Christ. Il y a des experts au temps de Jésus qui pouvaient citer tout l'Ancien Testament par cœur. Lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ils ont dit « il faut le mettre à mort ». Il n'est pas question de lui dans toute la Bible. Pardon? C'est eux qui l'ont remis aux Romains pour le faire crucifier. Tu peux connaître les Saintes Écritures par cœur et ne pas être habité du message de Christ. Mais si tu vas vers les Écritures, habité par le message de Christ, Dieu va te parler. Tu vas lire les Écritures complètement différemment. Qu'est-ce que ça veut dire être habité par le message de Christ? Bien, laissez-moi vous donner un exemple par la négative. Peut-être qu'il y en a ici qui sont habités d'un esprit critique. Là, je ne parle pas d'un démon, là, je ne suis pas en train de dire que vous êtes possédé, c'est dans le sens figuratif, d'accord? Il y en a, bon, au Québec, on appelle ça des chialeux, tu sais? Des chialeux. Il y en a ici, c'est, peut-être que vous êtes comme ça, vous êtes des chialeux. C'est toujours en train de chialer, toujours en train de critiquer. Aussi, on peut appeler ça des gérants d'estrade. T'sais? Gérant d'estrade, il est là dans les estrades, il regarde ce qui se passe sur le match, puis si c'était lui le coach, je te dis, cette équipe-là gagnerait tous les matchs. C'est des gérants d'estrade, c'est des chialeux. Ces gens-là sont habités d'un esprit de critique. Tout ce qu'ils regardent est lu à travers ce regard-là. Il y en a d'autres, c'est une espèce d'esprit d'inquiétude, rempli de soucis constamment. C'est juste des exemples que je veux vous donner, mais ça nous aide à comprendre, ça veut dire quoi être habité de? Habité d'un esprit de critique. Non, Paul dit, soyez habité du message de Christ. C'est ça qui doit vous habiter. Si j'avais à l'illustrer plus concrètement, je vous dirais que c'est comme une infusion. Il y en a qui aiment des petites tisanes ici l'été. Moi, je suis plus café, tu sais, espresso corsé. Mais j'aime ça quand mes grains de café ont été traversés par de l'eau, puis il ne reste rien, ou rien dans cette tasse d'eau-là qui n'a pas été affectée par le café. Toi, tu prends ta petite tisane, tu mets ta poche de thé dedans, puis à un certain moment donné, cette eau-là, c'est magique, est en train de se transformer, ça devient une superbe tisane. Cette eau-là est habitée par une nouvelle essence. Elle est entièrement affectée. Si je voulais donner une illustration pour des jeunes, c'est entrer dans un jeu vidéo où l'univers qui a été créé est tellement bien pensé que tu as vraiment le sentiment de pénétrer un autre univers. Tout ce que tu regardes, tous les détails, les personnages, tout est habité de cet esprit-là. C'est entièrement habité par l'esprit de ce créateur-là, de ce jeu vidéo. Que la parole de Christ soit infusée en vous, entièrement, complètement, partout, dans tous les domaines. Qu'elle habite richement parmi vous et en vous. Puis c'est intéressant, c'est pour ça qu'on va vers ce passage-là pour les Écritures comme un rythme de la vie de l'Église, c'est que ce passage-là est communautaire. Il vient juste de dire qu'il est question du corps de Christ. Un peu plus tôt, Jésus va dire que la paix de Christ habite en vous. Puis là, il va vers les relations. Vous devriez être inspiré par l'amour. L'amour doit être constamment présent au milieu de vous. Bien ici, lorsqu'il est en train de dire que la parole de Christ habite richement en vous, il n'est pas en train de dire « en toi ». Il est en train de dire « en toi », mais il est surtout en train de dire « en nous ». Et donc, il est en train de parler de comment le message de Christ doit habiter au milieu de l'Église. Si tu penses que la vie chrétienne se vit sur le web, avec une Église web, Ta vision de l'Église est anti-biblique. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Vous pouvez prendre deux chrétiens qui s'écrivent des commentaires sur Facebook et souvent, ce n'est pas aussi joli que s'ils étaient allés prendre un café ensemble. Il semble que l'aspect virtuel de la chose nous transforme. Nous sommes des êtres communautaires et j'ai besoin de te regarder dans les yeux puis aller prendre un café avec toi s'il y a un commentaire que tu as fait sur Facebook qui m'a insulté. Je ne vais pas régler ça sur Facebook. Non, c'est en train de dire qu'on n'est pas des êtres virtuels. Nous sommes des êtres physiques. On vit et on évolue ensemble. Et la Bible habite richement en nous, lorsque nous le vivons d'une manière communautaire. La Bible ne t'a pas été donnée pour que tu la lises chez toi, que tu suives 8 églises sur le web, que tu sois en train de lire un paquet de livres chrétiens, mais tu n'es jamais en train de confronter comment la Bible t'a transformé à travers la vie d'une église. C'est dans la vie communautaire de l'église que le message de Christ va habiter richement en toi. Des experts, des soi-disant experts de la Bible qui nous pourfendent toutes les fausses doctrines sur plein de sites web puis qui partent leur... Il y en a plein sur Internet. J'aimerais les rencontrer dans leur vie d'église. J'aimerais que des gens de leur communauté me disent « Cette personne-là est tellement édifiante. Elle sait comment venir reprendre avec douceur, avec charité. » Sa vie privée, lorsqu'il n'est pas devant l'écran, est conforme. Ses navigations web sont toutes conformes à son site chrétien. Ces choses-là, ça se vit en église. C'est une vie communautaire. On est ensemble réunis. Puis on investit dans la vie les uns des autres. Et donc, lorsque Paul dit que le message de Christ doit habiter richement en nous, il est en train de parler aussi de notre vie d'église. Ici, à l'Église de l'Espoir, ça se vit comment? Bien, on peut lire la Bible ensemble à chaque année. On a notre petit groupe Facebook, puis on partage un peu où on s'en va. Ça se vit comment? On expose les Écritures le dimanche matin en assemblée. Puis chaque dimanche, on a un message que toute la communauté peut discuter après. Chacun peut lire la Bible toute la semaine, lire des bons livres chrétiens, même écouter des bons prédicateurs d'autres églises. Pas de problème. Mais on a un message chaque semaine qui nous dit, là, on est là en église ensemble, puis on peut le discuter toute la semaine. On peut aller dans des groupes connexion, on peut le discuter encore. On peut le discuter avec les enfants. Ensemble, on se penche sur les Écritures et on réagit ensemble aux Écritures. C'est ça, vivre ensemble, être habité par le message de Christ. Ensuite de ça, on peut vivre ça dans des groupes connexion ou à travers des plus petits groupes. Des triades, des quads, où on échange ensemble, puis on se confronte, puis on dit « j'arrive pas à vivre ce passage-là ». On le fait à travers des cours bibliques. Ce matin, on a des cours bibliques qui commencent. Et on vit ça en Église comme une cohorte de chrétiens qui veulent être habités par la parole de Christ et qui évoluent ensemble. Et si Dieu nous accorde la grâce d'évoluer ensemble pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, plus les années vont passer, plus cette habitation-là du message de Christ au milieu de nous va devenir riche. Parce que lorsque je vais parler avec toi et tu vas parler avec moi, il y a toute la connaissance de tes combats, de tes luttes, de tes épreuves, de tes difficultés qui m'amène à savoir tes faiblesses et tes forces. Et je ne parle pas comme pasteur, je parle comme frère et sœur dans la communauté. C'est vraiment intéressant parce que ce que Paul va utiliser ici lorsqu'il parle d'exhortation, puis d'instruction puis d'exhortation, il l'a utilisé plutôt dans son rôle à lui comme apôtre. Donc moi, comme pasteur, j'ai à vous instruire. Nous, les pasteurs, nous avons à instruire l'Église, à exhorter l'Église. Mais lorsqu'on arrive ici dans le passage, il est en train de parler de l'œuvre et de l'activité de tous les membres de la communauté. Toute l'Église est appelée à s'instruire les uns les autres puis à s'exhorter. Toute l'Église est appelée à être habitée par le message de Christ. Et une Église qui ne serait pas habitée par le message de Christ, ce serait une église qui pourrait être habitée, par exemple, par un esprit de performance. Plutôt qu'être habitée par le message de Christ, une église habitée par une tiédeur spirituelle, une absence de louange. Le pasteur Michel nous a parlé de louange la semaine dernière. Une église qui ne vibre pas au rythme de la louange. parce que son cœur n'est plus ému par la beauté et la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ, par la majesté du Dieu trinitaire, qui est plus touché par son amour, par sa grandeur, par sa bonté. Une Église qui souffre de tiédeur spirituelle, une Église qui n'est pas habitée par la foi, mais qui est habitée par des gens qui sont aussi craintifs de l'avenir que ceux qui sont sans Christ. C'est pas ça qu'on veut être par la grâce de Dieu. On veut être une Église qui est habitée par le message de Christ. Et une des choses qui est la plus fascinante, la plus surprenante dans ce passage-là, c'est que ça se passe dans le passage ici, fondamentalement à travers la louange. C'est vraiment intéressant. Vous allez voir, je vais faire une application avec ça qui va probablement vous surprendre. Mais dans le passage précis, cette habitation du message de Christ se passe principalement à travers des psaumes, des hymnes et des cantiques. C'est comme si je revenais sur le message de la semaine dernière. Mais là, je vous parle du rythme de la parole. Cette parole-là habite richement au milieu de nous, à travers la louange. Le pasteur Michel nous instruit et nous exhorte en nous conduisant dans la louange dimanche après dimanche. Maintenant, concrètement, pour rendre ça plus tangible, il parle d'instruction et d'exhortation, puis je vais terminer avec ça. Et je le dirais comme ceci, la parole nous forme et nous déforme. La parole nous forme et nous déforme. Avec sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est cette capacité de mettre les choses dans leur contexte. Et donc, Paul est en train de dire, instruisez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres. Je viens un peu plus à ça, mais tout ceci doit être fait avec sagesse, avec une écoute, avec sans jugement. Je m'en vais vers l'autre et je m'en viens lui apporter une instruction, une exhortation. Parce que ça doit se faire avec sagesse. Autrement, ça ne sera pas fait selon l'Esprit de Christ. Instruction, c'est quoi que ça veut dire? C'est éclairer. La parole de Christ vient éclairer plein de choses dans nos vies, puis vient réformer notre manière de voir les choses. Elle vient éclairer ta vision de toi, qui tu es. Il va falloir qu'elle déforme des idées que tu as sur toi-même, mais pour venir former une vision de toi-même qui est juste, qui est biblique, qui est saine, qui est à la fois belle puis en même temps humiliante. Elle vient éclairer ta vision de Dieu. Tu ne pourras pas former Dieu ou le déformer selon tes désirs, comme tu aimerais qu'il soit. Non, ce Dieu-là va te bouleverser, il va t'édifier, il va te troubler, il va te rassurer. Mais il va venir se révéler à toi conformément à ce qu'il est lui-même. Ça va venir éclairer ta vision du monde. Comment tu regardes la terre? Tantôt, je parlais des « doomsday prophets ». Ça inclut la vision du monde, ça. Ta vision du monde, tes opinions, ça va venir éclairer ta définition du bonheur, ça va venir éclairer ta compréhension du sens de ta vie sur terre, ça va venir éclairer tes relations, c'est quoi des relations saines, c'est quoi l'amour, comment on élève nos enfants, je pourrais continuer pendant des heures. C'est l'instruction qu'apporte le message de Christ lorsqu'il habite richement au milieu de nous. Mais Paul nous dit que ce n'est pas simplement là pour nous éclairer, nous instruire, c'est là pour nous encourager, nous exhorter. Quand on entend le mot « exhortation », souvent, on pense à quelque chose de dur.
« Je m'en viens t'exhorter. »
C'est tellement une déformation. Le mot « exhortation », ça veut dire « encouragement ». Une exhortation, c'est un encouragement. Ce qui est intéressant dans le passage ici, c'est que l'instruction puis l'exhortation sont dans le contexte de la louange. C'est des psaumes, des hymnes, des cantiques. C'est plus facile pour moi de me dire, « OK, si je dois aller encourager quelqu'un avec des psaumes, des hymnes, des cantiques, probablement que ça ne sera pas trop dur à entendre. » Ça n'aura pas de l'air comme « Hey, je m'en viens te ramasser, toi. » En chantant, c'est comme bizarre, tu sais. C'est comme bizarre de ramasser quelqu'un en chantant, tu sais. « Je m'en viens te chanter un psaume. » C'est de l'encouragement. C'est de l'encouragement. L'exhortation, c'est de l'instruction appliquée. C'est mis dans un contexte, c'est dans le contexte d'une vie. L'exhortation, c'est vraiment l'encouragement où je suis conscient de ce que tu vis, puis peut-être que tu n'es pas en train de marcher dans les voies de Dieu, mais tu as besoin que je vienne t'encourager à revenir à Dieu. Puis je m'en viens l'appliquer concrètement dans ta vie. C'est ça l'exhortation. C'est très concret, c'est très pratique. Pour nous, à l'espoir, mais ça veut dire que le message de Christ instruit nos attitudes les uns envers les autres. On va chercher à s'instruire les uns les autres et s'encourager les uns les autres, toujours à travers le message de Christ. Je vais me promener n'importe où dans les Écritures pour te citer un passage biblique et je ne peux pas le déposer devant toi sans l'avoir lu à travers le message de Christ. Autrement, je pourrais le déformer et mal l'appliquer. L'appliquer comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Pour nous, les rythmes de la parole dans l'instruction, l'exhortation, ça veut dire qu'on va le faire avec humilité. On va être redevables les uns aux autres. J'ai répété à cette assemblée des dizaines et des dizaines de fois, si vous n'avez pas l'impression que nous, les pasteurs, sommes vos serviteurs, venez nous le dire parce qu'on est en train de manquer notre coup complètement. Si vous avez l'impression que ceux qui enseignent dans cette église ne sont pas enseignables, venez nous le dire parce qu'on n'est pas en train d'incarner le message de Christ. Le message de Christ, c'est qu'on est tous pécheurs, on est tous malades, on est tous brisés, on a tous besoin de la grâce. Jusqu'au retour de Christ, ça va être comme ça. Et donc, pour nous, porter le message de Christ en Église, dans nos instructions et nos exhortations, ça doit se faire avec humilité, en étant redevables les uns aux autres. Quand on fait de la formation de disciples ici à l'Église, on ne dit pas, « Bien, moi, je suis un disciple senior. » D'accord? Puis vous, vous êtes des disciples juniors. Fait que là, je vais vous expliquer un peu la vie chrétienne. C'est pas comme ça qu'on fait ça ici. Voici comment on fait ça. On dit, nous sommes tous des disciples en transformation. Christ est en train d'être transformé en moi. Peut-être que j'ai 1 ou 2 000 de plus que toi, fait que je vais guider la conversation. C'est comme ça qu'on fait ça. Puis il y a un moment où toi, tu vas m'exhorter. Parce que c'est comme ça qu'on vit ça humblement. Pour nous, à l'Église de l'Espoir, ça veut dire qu'on est passionné puis on est émerveillé par un Christ merveilleux. Et tout ce qu'on fait dans notre instruction, dans nos exhortations, doit avoir cette saveur-là. Le jour où nos exhortations, nos instructions auront la saveur de l'inquiétude, du trouble, du manque de foi, de la sévérité, de la colère, de l'amertume, le message de Christ n'habitera pas richement au milieu de nous. Pour nous, à l'espoir, le rythme de la parole doit toujours prendre le ton d'une communauté de graciés, où on est gracieux les uns envers les autres, et tout ce qu'on cherche à faire, c'est de s'assister les uns les autres alors que Dieu est en train de former Christ en nous. Et je veux t'encourager ce matin à reprendre avec l'espoir les rythmes de la parole. L'Église, tu ne peux pas la vivre chez toi, sur le web, même si on essaie d'accommoder. Ce n'est pas une solution long terme, cette affaire-là, les amis. Ta vie chrétienne, dans la parole, tu ne peux pas la vivre seule avec ta Bible et tes livres chrétiens. Tu vas la vivre avec des gens où tu vas échanger. Tu dois te joindre à un groupe où on va venir déposer la parole devant toi en te connaissant personnellement. Ce matin, avant que le service commence, je me suis promené dans toute la salle. Puis j'ai prié pour chaque personne qui allait s'asseoir ici ce matin. Et j'ai prié en disant, « Seigneur, moi, je ne peux pas appliquer la parole à la vie de chaque individu. » Je veux dire, on passerait des semaines ici. Il faudrait que je fasse un rendez-vous avec chacun d'entre eux. Mais toi, par ton esprit, tu peux le faire. Tu es puissant pour le faire. Maintenant, c'est pas là que ça s'arrête. Appliquer la parole, c'est aussi dans un groupe connexion. Dans une triade, dans un quad, dans un ministère, où tu vas être connu et tu vas connaître. Ta vie va être exposée, la parole va être appliquée dans ta vie, contextualisée à ce que tu es en train de traverser. Je me suis promené dans la salle, puis j'ai dit, « Seigneur, je ne sais pas, peut-être qu'ils ont eu une mauvaise nouvelle cette semaine, un problème de santé, perdu un travail, une joie, ils ont eu une demande en mariage, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous vivez. » Et voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis que les rythmes de la parole à l'espoir, c'est même pas simplement de venir ici le dimanche matin. Il faut avoir des connexions significatives ensemble. Et c'est pour ça qu'on vous encourage pas simplement à être des visiteurs à l'espoir, mais devenir membres de l'Église de l'espoir. Qu'on connaisse vos noms, qu'on sache qui vous étiez, qui vous êtes, que vous impliquiez dans des ministères. Donc, je veux t'encourager, à travers cette série, à examiner ta vie, pour voir si ta vie a repris les rythmes de la parole. Et si tu as compris qu'en espoir, les rythmes de la parole, c'est avant tout l'Évangile de Jésus-Christ, qui va être infusé dans toutes nos relations, toutes nos attitudes, qui va venir dicter comment on interagit les uns avec, envers les autres, comment on prend soin les uns des autres. Que Dieu puisse saisir vos cœurs. Et si ce matin, tu ne connais pas Jésus-Christ personnellement, puis tu dis, « Quoi, il y a quelqu'un qui est mort pour moi sur la croix, viens nous voir, accroche quelqu'un ce matin, pars pas d'ici sans dire, écoute, j'ai besoin qu'on m'explique ce message-là vraiment. » Sois attentif aux témoignages que tu vas entendre tantôt. Peut-être que Dieu va te préparer à passer bientôt à ton tour dans les eaux du baptême. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous venons te célébrer, t'adorer. Tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, tu m'as saisi par ta grâce, tu m'as accordé la grâce de croire en toi. Je n'étais pas meilleur que personne, je n'étais pas meilleur que tous les gens autour de moi qui n'ont pas cru. Tu m'as donné ce don de foi, je ne peux pas l'expliquer, ça me dépasse complètement, Seigneur, mais j'en serai éternellement reconnaissant, saisi par la grâce de Jésus-Christ. Et Seigneur, ma prière pour cette Église, ma prière pour moi, pour ma famille, pour chacun d'entre nous, pour ce corps qu'est l'Église de l'espoir, Seigneur, c'est que ce message de Jésus-Christ habite richement en nous, en moi, en chacun d'entre nous et au milieu de nous, Seigneur. Non seulement dans nos louanges, mais premièrement dans nos louanges. Non seulement dans nos prédications, mais premièrement dans nos prédications. Non seulement dans nos relations, mais premièrement dans nos relations, Seigneur. Que ton message vraiment infuse notre manière de voir le monde, d'écouter les nouvelles, de vivre dans un air d'anxiété, dans un air de crainte où des doomsday prophets constamment nous disent « la fin du monde approche ». Bien sûr qu'elle approche, jour glorieux où Christ reviendra. Ce n'est pas la fin du monde. C'est le début d'un monde nouveau, de cieux nouveaux, d'une terre nouvelle avec toi, Jésus-Christ. Seigneur, que nous soyons infusés, imbibés, Seigneur, du message de Jésus-Christ, Seigneur. On veut te rendre grâce pour ce temps de louange qu'on prend ensemble ce matin. On veut te rendre grâce pour Jean-François et Cathy qui vont passer par les eaux du baptême. Seigneur, tu les as saisis par l'Évangile de Jésus-Christ. Viens, Seigneur, saisis nos âmes. Visite-nous ce matin par la puissance de ton Esprit Saint. Viens, Seigneur, visite nos cœurs ce matin. Viens, Seigneur, nous transporter dans ce temps de louange. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.